Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 11 décembre 1997 à Saint-Jeudard.
Développement toujours montrer où il en est par rapport à la réalité existante. Et la réalité existante la plus parfaite devant laquelle il se trouve, c'est lui, lui-même et l'autre. C'est l'ami et son ami. C'est, vous voyez, je crois de plus en plus, la philosophie creuse cette réalité que j'expérimente en moi et au-delà de moi, la personne. Vous voyez, pourquoi on est tellement pris par la liberté? C'est que la liberté caractérise la personne et sa responsabilité. Flamora, j'assume. Un acte qui n'est pas libre. Un acte qui n'est pas libre n'est pas humain au sens strict. Il est instinctif. Un acte qui est proprement humain, il est libre. Alors on confond la recherche de la liberté plutôt que la recherche de l'amour. Voilà tout de suite le retour sur le dominium du sujet, de la personne humaine, et non plus ce qu'elle est. Alors là, il y a un problème extrêmement important pour nous. C'est d'essayer de comprendre comment la métaphysique propre de l'être au niveau causalité matérielle. L'être est au-delà de l'esprit et de la matière, est au-delà de l'esprit et des sens. Et pour découvrir l'être, on met tout en cause dans notre connaissance sensible et notre connaissance intellectuelle et notre connaissance contemplative. On met tout en cause. Parce que l'être est ce qu'il y a de caractéristique pour notre connaissance humaine à saisir, à atteindre. Dans le jugement d'existence, ceci est. Et c'est la présence du jugement d'existence en acte qui caractérise la pensée philosophique dans une philosophie qui se veut réaliste. Et vous voyez, quand vous lisez tel ou tel philosophe, essayez de réfléchir toujours, tout de suite, pour lui, qu'est-ce qui caractérise sa pensée philosophique ? Parce que tout philosophe fait une œuvre qui a une certaine unité. Une unité dans le devenir, dans l'évolution. Une unité dans la finalité. Une unité dans la cause formelle. C'est très propre. Les allées sont bien dessinées. D'autre part, comprenez dans ce point de vue-là aussi, de l'influence particulière de la philosophie première sur toutes les autres parties de la philosophie. Et de l'influence des mathématiques sur le développement des sciences modernes. Des sciences nouvelles qui ne sont pas la philosophie. Et quel est le rapport de ces conclusions scientifiques avec une philosophie ? Problème critique capital aujourd'hui. Et très intéressant du reste. Alors, j'ai essayé de vous montrer hier, parce que nous sommes tous nés dans ce système. limpidité mathématique. C'est très étonnant. C'est sur ce terrain-là qu'on peut s'amuser avec lui. Enfin, il ne faut pas le faire. Mais c'est sur ce terrain-là qu'on peut s'amuser avec lui. Parce qu'il nous tente constamment sur ce terrain-là. Mais bien, il y a la distinction du bien et du mal, mais ça c'est l'invention des théologiens. C'est la loi. Mais maintenant, l'humanité est arrivée à un stade digne de moi. Le démon dit ça. Des hautes mathématiques. Il met sa main dessus. Très curieux. Mais il faudrait un livre de théologie là-dessus. Le démon et les mathématiques. On devrait rugir ça. Mais c'est le terrain neutre. Je suis neutre pour donner la paix au monde. Je suis neutre pour pouvoir dominer sur toutes les intelligences. C'est curieux. Les mathématiques sont une connaissance typiquement humaine. Et le démon s'en empare. Pénétrer la forteresse. Ça constamment. Et les mathématiques, c'est l'alliance de la cause formelle et de la quantité. Et la quantité est la propriété de la cause matérielle. Le démon n'aime pas la cause matérielle, mais la propriété de la cause matérielle, il l'aime. Il voulait dominer. C'est un tremplin merveilleux pour lui. Il faut être très attentif à ça. Et nous avons, j'allais dire, une grâce particulière pour le découvrir, ça. Je crois que la philosophie d'Aristote est la meilleure des philosophies pour dépister cette alliance du malin avec la cause matérielle. Et comment naît la dialectique matérialiste? Et comment l'intelligence qui recherche la vérité, l'intelligence humaine qui recherche la vérité, doit être très attentive aux limites de la dialectique matérialiste? Matérielle, si intéressante qu'elle soit, mais passionnante, ne peut pas faire découvrir ce qu'est l'être. L'être est au-delà de la matière. Vous voyez, au fond de tout cela, c'est toujours la distinction et non pas la séparation entre le devenir et l'être. Et pour Heidegger, entre l'étant et l'être. Mais j'aime mieux dire le devenir. Le devenir et l'être. Et nous avions vu pas de recherche de la cause propre et efficiente de ce qui est en tant qu'il est. Et cela est capital. Vous voyez, au fond, pour bien comprendre ce que nous essayons d'expliquer maintenant, c'est de revenir au problème grec, de la philosophie grecque fondamentale, distinction entre le devenir et l'être. Quelles sont les causalités propres du devenir? Les causalités propres du devenir, c'est tout ce qui est mu, ému par un autre. Tout ce qui est mu par un autre. Et la causalité de la matière, le devenir. pour cela qu'au fond, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est comprendre que la philosophie première ne pouvait naître qu'au moment où on avait compris la distinction entre être et devenir, en comprenant l'ordre du devenir vers l'être. Ceci est très très manifeste dans la philosophie de l'art, dans la philosophie du travail. Le travail est un devenir. C'est un devenir. C'est pour ça que, au sens strict, la création n'est pas un devenir et n'est pas un travail. Parce qu'elle n'est pas un devenir. Parce que le devenir se fonde toujours sur une matière antérieure sur laquelle on travaille. On fait sortir du devenir une forme nouvelle, une nouvelle détermination lorsqu'on sculpte. Et philosophie du devenir. C'est très impressionnant, ça. Parce que ça fait comprendre des tas de choses qui proviennent toujours de cette dualité. Donc, une philosophie du devenir est une philosophie de la description. Quand Merleau-Ponty parle de la phénoménologie dans la préface, très, très limpide, très intelligente, de son livre sur la perception, montre que la philosophie phénoménologique est une description. Il ne dit pas une analyse et une recherche des causes, mais une description. La description, c'est toujours la description d'un devenir. Et dans le devenir, on voit le point de départ et le terme. Et c'est ça qui explique le devenir. Point de départ et le terme. Où allez-vous? D'où venez-vous? Tout de suite. Vous voyez que ce mouvement implique une première détermination et une dernière détermination. Mais c'est une philosophie qui demeure dans la description. Une description de plus en plus fine, de plus en plus raffinée, de plus en plus intéressante d'une certaine manière. Mais ça reste une description. Ça reste une... Et non pas une analyse. Mais c'est très important de voir que l'analyse se situe au point de vue philosophique, à la recherche des principes. Tandis que, au plan philosophique, j'essaie d'analyser qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre fondamental de la potentialité, dans l'ordre de l'efficacité, dans l'ordre de la finalité. Et j'ai la recherche des quatre causes. Il y en a une cinquième. Et lorsque je suis en face de la recherche du mouvement, par définition, le mouvement est quelque chose de second. Et je dis, il n'y a pas de premier dans le mouvement. Il n'y a pas de découverte d'un principe premier, d'un principe individuel. Non. Et partout où je découvre la dyade, je ne découvre pas de principe. La grande purification pour notre intelligence, c'est de mettre de côté tout ce qui est. Et c'est ça la grande purification de l'intelligence, c'est de mettre en dehors de son analyse la plus pénétrante qu'elle peut avoir, de mettre là, pour l'intelligence, quelque chose de capital à comprendre. Pas de premier immédiate dans la recherche de la cause efficiente. Il reste donc, dernier point, la finalité. Est-ce qu'il y a une finalité au niveau de l'être ? Philosophie. et l'artiste jugera son œuvre d'après son idéa. Il sera quelquefois obligé de ne pas aller jusqu'au bout de son idéa à cause de la matière. C'est constamment ce qui arrive. Quand un artiste veut faire un pont merveilleux, le plus grand qui soit de toute l'Europe, il doit se poser la question, et alors là c'est une question, j'allais presque dire, plus mathématique que esthétique artistique. D'avoir jusqu'où les matériaux qu'il possède peuvent résister à une pression, à une lutte. Alors, recherche philosophique et métaphysique. C'est ça qui est très curieux dans la cause exemplaire. C'est que la cause exemplaire n'est pas uniquement découverte à partir des réalités que j'expérimente. Elle implique un achèvement de ma pensée. La cause exemplaire ne peut pas vivre en dehors de ma pensée. Je la nourris. Si je suis artiste, si je suis philosophe, ce n'est donc pas l'être tout pur, c'est l'être plus la pensée. Et c'est pour ça que la causalité exemplaire joue un rôle si important dans la phénoménologie. Pratiquement, c'est la cause exemplaire qui en phénoménologie remplace la causalité finale. À ce point de vue-là, c'est tout à fait comme Platon. L'exemplar. La cause exemplaire joue un rôle très grand chez les stoïciens et chez les phénoménologues. Mais elle se réalise d'une façon réelle dans une philosophie de l'art. Parce que dans la philosophie de l'art, il faut que la pensée domine ce qui existe. C'est dans ce sens-là que toute œuvre d'art a son originalité et n'est pas une photographie, si artistique qu'elle soit. Parce qu'il y a des films, il y a des photographies qui sont des chefs-d'œuvre. Chefs-d'œuvre photographiques. Mais c'est un art mineur, c'est pas un art premier, c'est un art de l'œil qui sait voir immédiatement ce qu'il faut photographier. Et c'est pas la tête, c'est pas le personnage pour qu'on garde ça sur son cœur. Ça c'est pas artistique, c'est un souvenir d'autre chose. La photographie remplace le souvenir. Il n'y a pas de photographie, ça peut passer dès qu'il y a une réunion. Ce que dit Saint-Père avec plein d'humour, prenons une philosophie, une photographie de famille. Il y a le pape là, bien au milieu. La famille. Et c'est vrai que ça joue un très grand rôle dans l'éducation. Ça joue un très grand rôle. Avant, il n'y avait pas la photographie, il y avait l'art qui représentait des personnages. Ça durait un peu plus longtemps. Et c'était mieux comme souvenir. C'était plus individuel. La photographie, elle est communiquée à tout le monde. Pas de secret. Divulgation des secrets, la photographie. Oui, il y a toute une réflexion à faire sur la causalité exemplaire et l'exemplar qui va jouer. mettre en valeur tel ou tel point oublié. Quand Heidegger veut être le réformateur de la philosophie première, de l'ontologie fondamentale, il voit tout de suite l'oubli de l'être. Voir l'oubli de l'être, c'est pas philosophique, puisqu'il n'est pas là. C'est l'oubli. Il voit un trou. C'est une causalité exemplaire. Voir l'oubli de l'être et de réformer, bien qu'il soit catholique, réformer ce qui se fait actuellement pour y mettre l'être. Et comme c'est curieux, hein, y mettre l'être, il y a un trou, un très grand trou, un trou sans fond, l'absence de l'être, un univers avec l'absence de l'être. Alors ça vous donne la panique, ça vous donne une sorte de doser. En réalité, vous voyez, c'est une rééducation. C'est le besoin d'éduquer et de réparer une erreur. Philosophie qui veut corriger la philosophie européenne qui oublie l'être. C'est très intéressant et très significatif, cela. Alors, pour nous, la causalité exemplaire reste de l'ordre de l'éducation, de la pédagogie, de la morale, du gouvernement. Un gouvernement humain, politique, s'il est intelligent, a comme premier souci la pédagogie, la formation. C'est le premier souci, c'est la formation. Et pour former vraiment, il faut des exemples. Il faut une causalité exemplaire. La Grèce a saisi ça tout de suite. Et c'est comme ça qu'a commencé sa morale. Par le point de vue de la pédagogie. Socrate, l'exemple de l'homme ardent, de l'homme qui aime son pays au-dessus de tout, au-dessus de sa propre vie. Et Socrate fait le sacrifice de sa vie pour le salut de sa patrie. Et martyr de la cité, et pour la cité. Et ça, c'est très significatif. Vous voyez, les stoïciens ont un sens très grand de la causalité exemplaire. Et je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup essaient de rattraper la causalité finale par la causalité exemplaire. Là, c'est un souci pédagogique. Ce n'est pas une recherche de la vérité au sens premier. C'est très différent, le souci pédagogique, c'est celui qui connaît la matière devant laquelle il se trouve, et il sait ce qu'il peut demander à cette matière et ce qu'il ne peut pas demander. Parce que s'il demande de trop, la matière vomira, elle rejettera ça, elle se mettra en colère. Si, au contraire, il commence par la caresser, tout doucement, elle va répondre. C'est étonnant par ça. Vous voyez, ce qui élève les chevaux. Toujours une caresse avant. Garder le contact avec la bête. C'est-à-dire que celui qui foncerait, il recevrait la ruade. C'est très significatif, hein, c'est le propre de l'éducation. Dans l'ordre de l'éducation, la causalité exemplaire joue un rôle très grand. renouveau, dans tous les renouveaux, la causalité exemplaire joue un rôle très grand. Mais il ne faut pas abandonner la causalité finale, parce que uniquement rester dans le point de vue de la réforme, pour la réforme, on reste indéfiniment des réformés qui n'ont plus rien à réformer, mais ils sont réformés. C'est très curieux. Vous voyez, c'est l'éducateur qui éternellement reste éducateur. Vous avez vu ça, des professeurs de gymnastique à 80 ans. Ou est-ce que l'intelligence est pour l'être ?